Dans ces derniers mois, il y a eu quelques avancées puisque effectivement le juge a pu demander des éléments depuis l'ONU.
À la MINUSMA, donc.
Voilà, exactement, qui viennent quand même corroborer un certain nombre d'éléments en fait dont on avait déjà connaissance dans le dossier. Mais il était important d'obtenir ces notes et ces correspondances qui ont été prises au moment des faits ou juste avant l'enlèvement de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon.
Et qui confirme quoi? Qui confirme la chronologie?
La chronologie, voilà, tout à fait.
Est-ce que les dernières déclassifications du printemps vous ont permis également d'avancer?
Oui et non, puisqu'il reste toujours des inconnus. Alors, je dirais qu'il y a des noms de suspects qui apparaissent de manière régulière, mais ces éléments de déclassification, en réalité, ne permettent pas de connaître précisément l'identité de ces suspects, précisément s'ils sont vivants ou non. Il y a encore beaucoup de flou autour de cela. Et en réalité, ça ne permet pas de connaître les auteurs de manière certaine.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on a le pédigré du commando au complet?
On ne sait pas. On ne peut pas savoir à partir de ces éléments.
Quelles sont les zones d'ombre aujourd'hui, donc, finalement, sur ce dossier?
Je dirais la zone d'ombre qui intéresse principalement les parties civiles, c'est le mobile. Ça reste flou. C'est-à-dire qu'on pourrait, à la limite, dire qu'il y a quelques noms qui ressortent, ce qui permettrait de savoir qui est à l'origine et qui a exécuté, qui a enlevé. Mais la zone d'ombre, elle concerne surtout le mobile.
En janvier dernier, un reportage diffusé sur la chaîne française France 2 établissait et questionnait en tout cas un lien entre la libération des otages d'Arlit 4 jours avant la disparition de Ghislaine et Claude. Mm-hmm. Est-ce que ce lien a été étudié comme une piste sérieuse par le juge ces derniers mois?
Alors, il faut savoir que le juge a plusieurs hypothèses en tête au vu du dossier. Mais qui n'est pas, je pense, et je ne veux pas parler en son nom, mais qui n'est pas favorable à faire ce lien entre les otages d'Arlit et l'affaire qu'il occupe. Il a des éléments qui laissent supposer qu'on est en dehors de ce lien. Et je crois qu'il n'a pas considéré que le reportage était en fait une piste sérieuse au regard du dossier qui concerne l'assassinat d'Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, parce qu'il a d'autres hypothèses en tête. Voilà.
Où en est la coopération avec le Mali sur ce dossier?
Le juge est en lien avec les autorités maliennes. Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile que les autorités interviennent à Kidal, dans le nord Mali. Donc, il n'y a pas véritablement d'éléments qui puissent, je pense, bouger de ce côté-là pour le moment.
Vous, en tant qu'avocate, quelles sont vos attentes aujourd'hui au vu du travail de ce juge et des pistes qui ont été explorées ces derniers mois?
Les espoirs, c'est la possibilité justement d'identifier les auteurs, ceux qui restent, et que le juge puisse délivrer des mandats d'arrêt internationaux. Ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'il y ait des personnes qui soient interpellées.
Maintenant, parce qu'aucun mandat n'a pu être délivré, c'est
non.
Ça?
Parce qu'il y a des problèmes d'état civil et un mandat d'arrêt international comme ceci, ça ne peut pas être délivré comme ça à la va-vite. Mais ça, c'est l'espoir que j'ai, moi, en tant qu'avocat, pour qu'effectivement, cette instruction ne se termine pas comme ça.
Valérie Courtois, merci beaucoup.
Et je vous en prie.